on avait un peu terminé avant Pâques cette question du gouvernement divin sur la personne humaine. Nous avions vu les quelques points névralgiques où il y a nécessairement l'aide de Dieu comme Père. Plotin parle beaucoup, dans un climat néoplatonicien, de la paternité de Dieu. Et au fond, c'est d'essayer de comprendre comment Dieu ne nous gouverne pas comme il gouverne une vache. Dieu gouverne une vache, hein, Jésus. Mais il gouverne chez la vache, l'espèce vache, qui a son propre développement. Le gouvernement de la vache n'est pas le même que le gouvernement de l'éléphant. La loi qui gouverne la nature de la vache et la loi qui gouverne la nature de l'éléphant sont tout autres. Et Dieu n'intervient pas directement. C'est la loi de la nature avec des erreurs possibles, en ce sens que la causalité matérielle est toujours présente. Et dans le point de vue de la causalité matérielle, il y a des changements. Et il peut y avoir des obstacles tels qui empêchent la naissance du petit éléphant de bien-être. Et il y aura une naissance d'éléphant, un éléphant qui n'est pas tout à fait ce qu'elle devait être. Alors on dira, c'est la faute de Dieu. Non, c'est la faute de la nature et de la causalité matérielle. Et cette causalité matérielle, elle est dans notre monde et elle existe pour tous les vivants. Alors ce que nous cherchons, c'est comment il y a pour chacun d'entre nous, il y a un dépassement de la personne à l'égard de notre nature. Et nous avons essayé de regarder ces quelques points particuliers. Chaque fois que nous touchons la finalité, alors vous voyez, on peut réfléchir pourquoi. Je vous ai déjà dit que dans Aristote, qui a découvert la causalité finale, il montre le rôle de la causalité finale dans la philosophie de la nature et le rôle de la causalité finale dans l'éthique. C'est les deux choses qu'on doit regarder toujours. Le rôle de la causalité finale dans la nature est toujours médiatisé par la cause formelle. La cause finale s'appuie sur la cause formelle, sur la nature. C'est pour ça qu'au fond, une fois qu'on a découvert la nature forme, on conclut à la finalité. Et la saisie de la finalité en philosophie de la nature n'est pas directe. C'est la causalité formelle qui nous aide à découvrir la causalité finale. Tandis que quand je passe à l'éthique, c'est-à-dire à la personne humaine, l'éthique ne peut pas s'expliquer entièrement par la nature. Puisque l'éthique est commandée par le bonheur. Et le bonheur est personnel. Et quand quelqu'un est triste, vous allez vous dire, mais soyez joyeux. La communauté est joyeuse. Donc vous êtes joyeux. Non. La communauté peut être joyeuse, et moi pas du tout. Le point de vue de la béatitude est personnel. Et elle est directement atteinte par la personne. La causalité finale, et c'est le propre de la personne. La causalité finale est immédiate pour moi. Elle est, je pourrais dire, elle est de plus en plus proche. Et ma causalité formelle est de moins en moins proche. Si je regarde la croissance, ma croissance personnelle, ma croissance d'enfant, ma croissance d'enfant est dépendante de ma nature. Ça, c'est sûr. On pourrait avoir une dette plus ou moins dure, mais c'est toujours par la nature qu'on éduque. Il y a un moment où le point de vue de la personne va dépasser la nature. Quand on parle de l'âge de raison, anciennement, on parlait de l'âge de raison, maintenant on n'en parle plus beaucoup, l'âge de raison. On dit, le petit gosse arrivait à 7 ans à l'âge de raison. Qu'est-ce que ça voulait dire, l'âge de raison? Ça voulait dire une prise de conscience personnelle. Et non pas être comme un mouton de panurge. On suit tous les autres. Et dans l'éducation d'un religieux, il y a bien le noviciat. Le noviciat, c'est la nature, ce qu'est la vie religieuse. C'est la nature de la vie religieuse qui l'emporte. C'est pour ça qu'il y a certains caractères qui hurlent au noviciat. Ils ont une tête de plus. Tandis que celui qui est la nature humaine est très importante, il se trouve à l'aise. La personne se développe dès que vous sortez du noviciat. On vous laisse avoir vos responsabilités personnelles et non plus être toujours celui qui suit le frère qui est juste avant. Ou celui qui est un peu plus avant. C'est très curieux ce passage. Dans votre vie, vous pouvez tous le faire, ce passage-là. Vous l'avez fait et vous le faites de plus en plus. Le passage du noviciat dans lequel la nature humaine, la nature humaine domine, la nature humaine religieuse domine, et puis l'orientation plus personnelle qui se fait de plus en plus. Et c'est la personne humaine, alors. Et ça demeure toujours un peu une lutte entre les deux. Il y a des frères, il y a des sœurs qui sont beaucoup plus pour la vie commune. Il y a des frères et des sœurs qui sont beaucoup plus pour l'aspect personnel. Je peux vous dire, à droite, la vie commune, à gauche, la vie personnelle. Et au fond, il y a toujours en nous un équilibre des deux. Si vous supprimiez le point de vue communautaire, on vous dirait révolutionnaire. Si vous ne voulez pas du tout du point de vue personnel, on vous dit, mais quand même, il y a quelque chose en vous qui ne s'épanouit pas. Vous êtes un excellent religieux. On n'a jamais rien à vous dire. Un excellent religieux. Le matin, vous vous levez à l'heure dite. Le soir, vous vous couchez bien, vous dormez paisiblement, et vous êtes vraiment un très bon religieux. Mais il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, je l'ai entendu, moi. C'était pour le Carmel, par exemple. On me disait, une excellente novice, elle fait toute la règle. On dit, elle fait toute la règle. Excellente religieuse. Alors quoi ? La vie religieuse, c'est pas vivre la vie commune. C'est un appel de Dieu personnel. C'est pas parce que j'avais une tante qui était carmélite que je dois être carmélite. La vocation est personnelle, elle n'est pas commune. Vous voyez, le point de vue psychologique, qu'on recommande énormément aujourd'hui, bon, on a raison d'une certaine manière, il faut surtout toujours dire qu'on a raison. On a raison, mais on ne regarde pas du tout le point de vue personnel. Puisqu'on va chez le psychologue, il ne vous connaît pas personnellement. Il connaît vos réactions au point de vue commun. Vous êtes un type normal parce que vous faites comme tout le monde. Vous n'êtes pas normal parce qu'il y a un petit grain de sel. Chose particulière, personnelle. C'est très curieux. Au moment où on est très porté à regarder le point de vue personnel. Ça, on ne peut pas nier. Depuis 40 ans, l'attention est beaucoup plus grande sur la personne. Ça, même plus que 40 ans, mettez 100 ans. Le point de vue personne est bien plus. Et on est très attentif. Le point de vue psychologique joue de plus en plus. Et le point de vue psychologique serait presque déterminant pour une vocation. Or, le point de vue psychologique regarde le point de vue commun, les lois communes de croissance, et pas du tout le point de vue personnel. Quand vous aimez quelqu'un et qu'on le conduit au psychologue, on ne dit pas l'amitié avec cette personne. Le jugement du psychologue ne se correspondra pas du tout au jugement de l'ami. Parce que l'ami regarde la personne en premier lieu. Et par la personne, il regarde la nature. Vous voyez, c'est tellement intéressant à ce point de vue-là de voir le jugement des uns et des autres. les uns regardent d'abord la personne, puis après la nature. Les autres regardent d'abord la nature, puis après la personne. Et ça se fait comme ça. Parce qu'on a, et c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre, la nature n'appelle pas le gouvernement divin explicitement. La personne l'appelle. Pourquoi ? Parce que la personne, elle, est orientée directement vers la finalité. Vous voyez ? Une vache n'a pas de finalité propre. Mais elle a une nature propre. Un novice a une personnalité propre, puisque la vocation. La vocation est-elle naturelle ou personnelle ? Posez-vous la question. La vocation est-elle personnelle ou naturelle ? Alors, on va dire, ah, les deux. Ah oui, attention. La vocation, formellement, c'est la finalité. C'est la grâce de Dieu sur vous et l'appel de Dieu sur vous. C'est la finalité immédiate. Et donc c'est la personne. Et comme c'est la finalité directe, la grâce de Dieu est là. Alors, c'est sûr, cette grâce touche une personne qui a une nature humaine. Alors, on verra. Si la nature, telle qu'elle se présente, ne met pas un obstacle très net à la réalisation de la, vocation. Si on a une nature très rude, une nature d'homme très peu cultivé, nature de bouche de quelqu'un qui est très brutal, on dira oh, impossible de mener la vie commune. Et c'est vrai, la nature peut avoir des poussées comme ça de colère. Vous aviez un grand-père qui était très colérique, vous n'en pouvez rien. Vous aviez un grand-père très colérique qui aurait été capable de tuer. N'est-ce pas ? Les dents du petit-fils en sont agacées. Et alors, vous voyez le conflit nature-personne. Et au fond, ça joue tout le temps, ça, dans notre vie religieuse. Et c'est très important, parce que ça fait une conception très différente si vous mettez nature avant la personne. Ne dites rien. Et voyez tout simplement si on met personne avant nature. La vocation est un don personnel de Dieu, pas naturel. Il faut plusieurs générations. Je me souviens, ma vieille tante qui était carmélite me disait, il faut plusieurs générations catholique avant la capacité d'être une carmélite. Donc, là, elle insistait sur la nature. Oui, très bien. Comme bon, elle était prieure, et donc, quand elle disait ça, c'était la prieure. Et il y a un danger. Parce que la vocation est personnelle. Et alors, pour le problème qui nous intéresse, là, le gouvernement divin, Dieu n'intervient pas directement sur le gouvernement de la nature. Parce que la nature humaine n'a pas de finalité propre en dehors d'une finalité personnelle. Votre finalité naturelle ce serait d'avoir des enfants. Ça, c'est une finalité naturelle. Mais nous savons que l'homme, dans le développement de sa personne, peut très bien dépasser cette finalité naturelle, qui demeure toujours, hein, qui demeure toujours, c'est évident. Jusqu'à la fin de sa vie, si on s'est donné entièrement à Dieu, et donc on a opté une vie qui dépassait la finalité commune de la nature, on sait que cette finalité commune de la nature peut, à certains moments, renaître avec une très grande violence. Et c'est pas inquiétant. C'est pas à cause de ça qu'on n'a pas la vocation. Celui qui, à cause de ça, dit « je me suis trompé », mais non, il se trompe une seconde fois. Parce que c'est naturel à la nature humaine de sentir cette finalité immanente, pas personnelle, naturelle et immanente, de la nature. Ce n'est pas naturel de se donner entièrement à Dieu au point de vue finalité. Il y a quelque chose qui dépasse la nature. Hein. Et c'est ça qu'on appelle la vocation. Alors, la vocation fait appel direct à une grâce de Dieu. Bon, c'est très net pour une vocation religieuse. Pour le philosophe, la vocation peut être très bien une recherche de la vérité. Une recherche de la vérité très poussée peut très bien réclamer un genre de vie qui ne soit pas selon la nature, mais qui soit selon telle finalité. La vocation d'un homme pour rechercher la vérité coûte que coûte, et qui, pour cette recherche de la vérité philosophique, quitte tout. Cela ne peut se faire qu'avec un secours spécial de Dieu. Alors vous voyez, la finalité commune de ma nature humaine, la finalité commune de ma nature humaine, n'exige pas un secours immédiat de Dieu. C'est la loi commune. Lorsque vous mangez, lorsque vous dormez, il n'y a pas de secours spécial de Dieu. Même si vous mangez très bien, même si c'est très bon, ce n'est pas un secours direct de Dieu. Il y a une cuisinière. Oui, un cuisinier qui a fait ça très bien. Et lui, il l'a fait selon son métier. Celui qui n'a pas de métier, il a raté. Mais au fond, c'est la loi de la nature. Il n'y a pas un secours immédiat de Dieu pour devenir boulanger, pour devenir cuisinier et pour faire une très bonne cuisine. Vous voyez, c'est extrêmement important à voir le dépassement de la loi naturelle à la finalité immédiate. Retenez cela avec... Là, il faut le retenir. Il faut le découvrir et le retenir. N'est-ce pas ? Est-ce que je... vous disais il y a un instant, il y a deux manières de découvrir la finalité, la découvrir par la cause formelle et la découvrir immédiatement. Philosophie de la nature, éthique. Ça, nous devons tous le saisir. Et c'est très important, parce que ça nous montre la différence d'une finalité naturelle commandée par la cause formelle et une finalité personnelle, immédiate, au-delà de la causalité formelle. Parce que beaucoup de thomistes diront « Mais c'est évident, je respecte tout à fait la finalité. » Ils respectent la finalité à partir de la cause formelle. Donc ils respectent la finalité par rapport à la nature. Mais ils ne respectent pas la finalité par rapport à la personne. Et c'est pour ça que c'est si important de bien voir la manière dont Dieu nous gouverne. Il nous gouverne en tant que nous sommes une, en tant que nous appartenons au genre humain. Alors, il nous gouverne selon des lois, et il nous gouverne personnellement en tant qu'il y a en nous une personne qui dépasse la nature. Il y a un petit examen de conscience qui, je crois, est très bon, c'est de voir ce qui, dans votre vie, chaque jour, hein, est commandé par la nature. Et ce qui, dans votre vie, est commandé par la personne. Arrivez à faire ce petit discernement. Tout ce qui est commandé par la personne va directement faire appel à la grâce de Dieu. Dieu ne donne pas la grâce à la nature. Il donne que le péché. C'est un péché de nature. Mais il n'y a pas de grâce de nature. Et toujours, la grâce est personnelle. Et la plupart du temps, on fait le traité de la grâce de saint Thomas sans voir la différence entre la nature et la personne. Bon, quand j'ai suivi comme étudiant et que j'ai essayé de comprendre le traité de la grâce, on m'a jamais fait la distinction, alors que c'est élémentaire. C'est pas parce qu'on baptise le petit enfant que la grâce est naturelle. La grâce est personnelle. On lui donne un nom. Et ça se montre bien. C'est Pierre et Gabriel qui sont baptisés. C'est pas l'homme. Donc il faut arriver à bien distinguer ça. Je crois que c'est ça qui distingue très, très fortement chez les thomistes qui prennent matériellement Thomas d'Aquin, et les thomistes qui comprennent que ce que saint Thomas nous donne dans la somme théologique, c'est fondamental, mais ça demande d'être développé, d'aller plus loin. Alors, dès que je suis en face d'un développement personnel, le développement personnel du contemplatif, la contemplation regarde la personne, elle ne regarde pas immédiatement la nature. Alors, vous pouvez vous poser le problème, est-ce que la nature humaine, par elle-même, est appelée à la contemplation ? Ou est-ce que, dès que vous êtes en face du problème de la recherche de la vérité pour la contemplation, est-ce que vous êtes en face du problème de la personne, en premier lieu, et de la nature, en second lieu ? Tout problème humain, il faudrait se poser la question, suis-je en face d'un problème qui relève directement de ma personne, comme personne, ou est-ce que je suis en face d'un problème qui relève de ma nature, en tant que nature, ma nature humaine ? Vous n'arrivez pas toujours à faire bien la distinction, hein ? Mais si vous posez la question régulièrement, vous arriverez à faire cette distinction extrêmement importante. Parce que quand il s'agit de la nature, la finalité est une conclusion. Quand il s'agit de la personne, la finalité est un principe. C'est très curieux, mais c'est comme ça. Et par le fait même, ça change tout. Regardez la finalité comme une conclusion, ou regardez la finalité comme une fin. La conclusion, je la fais à partir de prémices. Or, quand il s'agit de la nature, c'est donc à partir de la nature formelle que je conclus la finalité. Tandis que si je suis en face d'une exigence propre de la personne, c'est cette exigence propre de la personne qui découvre en moi la finalité. C'est très très important ça. C'est même capital, ça. Il faut arriver à faire cette distinction pour tout ce qu'on fait. Ça nous évite énormément d'erreurs, ça. Et ça fortifie la personne. Et quand vous ne cherchez que le développement de la nature, la personne n'est jamais considérée pour elle-même, en elle-même, selon ses exigences propres. C'est la nature qui passe avant. Alors, je reviens, quand il s'agit d'une recherche de la vérité, recherche contemplative de la vérité, recherche personnelle. Ma nature humaine, par elle-même, elle est faite pour la vérité. Mais ma nature humaine n'atteindra la vérité qu'à travers ma nature. Ça explique pourquoi la plupart des personnes arrivées à 45 ans, 50 ans, ne recherchent plus la vérité. C'est un fait. Et pourtant, la recherche de la vérité est naturelle. Alors, Alors comment ça se fait, ça? À 40 ans, 45 ans, 50 ans, le poids de la nature, s'il n'est pas vraiment finalisé, est tel que je me replie sur moi-même, sur ma nature, cause formelle. Et c'est ça qui commande tout dans ma vie. Je n'ai plus cette liberté que nous avons tous connue de l'âge de 25 ans, 30 ans. On est très libre par rapport à la nature. Et notre orientation personnelle est très nettement supérieure. C'est cela que nous regardons. Alors, vous voyez, il y a deux recherches de la vérité. L'une naturelle, selon la nature, selon la cause formelle de la nature. Puis une recherche de la vérité personnelle, où la finalité se développe pour elle-même. Et ça, c'est capital de comprendre ça. Alors, la recherche de la vérité, quand elle se fait à partir de la nature, le développement de la nature à 45 ans est tel que je me contente de regarder ce qui est conforme à la nature. Et on dit, oh, moi je ne suis pas fait pour la contemplation. La nature humaine n'est pas faite pour la contemplation immédiate. La nature humaine est faite pour la procréation. La nature humaine, dans sa finalité de nature, elle est faite être père de famille, mère de famille. Ma finalité qui recherche la vérité, quelque chose de personnel. Ça a été très développé à 25 ans, 30 ans. Mais ça se développe moins à partir de 45, 50 ans. Si on ne fait pas grande attention, et on retombe tout simplement dans ce qui est possible. J'avais cru que c'était possible, non, c'est pas pour moi. Mais, alors que la raison, l'intelligence humaine se développe selon deux développements. Un développement naturel et le développement analogique. Alors, vous voyez bien là le double développement de votre nature humaine. Le développement qui reste univoque, genre et différence spécifique. Propriété, accident, les cinq prédicables, c'est le développement univoque de ma nature humaine, de mon intelligence humaine. Et puis le développement analogique, qui la recherche de la vérité pour elle-même et non plus en fonction de ma nature humaine, mais au-delà de ma nature humaine. C'est l'intelligence qui cherche l'être, ce qui est, et qui cherche les transcendentaux. Alors, l'intelligence a cette possibilité de recherche de dépasser le mode humain de connaissance pour s'installer dans un mode analogique. Le mode analogique de ma pensée, c'est ce que je découvre en métaphysique, ce que je découvre en philosophie, d'une façon générale. Mais il faut bien se dire que cette recherche de l'être, du bien, de l'un, pris d'une façon analogique, et d'une certaine manière surnature. Je ne dis pas surnaturel, je dis d'une certaine manière surnature. Parce que est le développement de ma personne. Oui. Je crois qu'on pourrait dire que le développement de l'intelligence au plan de la nature humaine et le développement de l'intelligence au point de vue de la personne humaine, on retrouverait ce que nous connaissons bien, le développement univoque de l'intelligence humaine et le développement analogique de la connaissance humaine. Pour le développement univoque de l'intelligence humaine, pas nécessaire d'intervention de Dieu. Pour le développement analogique de l'intelligence humaine, il est nécessaire qu'il y ait un soutien divin. Parce que ce n'est pas naturel, mais personnel. Et ça qui est très important. Ma connaissance analogique de l'être est personnelle. Et elle ne relève pas immédiatement de ma nature. C'est pour ça, du reste, qu'au fond, la métaphysique demeure si rare, parce que la plupart des personnes, des hommes, des femmes, demeurent dans le mode humain de connaissance et n'ont pas l'audace de poursuivre une recherche proprement intellectuelle. Personnel. Pour cette recherche personnelle, le secours de Dieu est nécessaire. Parce que cette recherche développe en moi l'intelligence en tant qu'elle est fille de Dieu, en tant qu'elle est don de Dieu immédiate. Et ce développement-là ne peut se faire qu'avec le secours de Dieu. Ce développement analogique conduit à la contemplation de Dieu, contemplation naturelle, contemplation analogique, c'est-à-dire, on le sait, très faible, mais qui existe quand même. Pour cette contemplation de Dieu, le secours direct de Dieu est nécessaire. C'est une recherche de la vérité, mais une recherche de la vérité, de l'intelligence comme intelligence, et non pas de l'intelligence comme intelligence humaine. Il y a les deux aspects, il ne faut jamais confondre. L'intelligence comme intelligence est faite pour la recherche de l'être. l'intelligence comme raison est faite pour connaître l'aspect générique des choses. C'est sûr, les deux se tiennent toujours jusqu'au bout. Je ne peux pas couper un développement de l'autre. Le développement analogique de l'intelligence présuppose toujours le développement univoque. Mais le développement univoque peut très bien se faire et se développer indépendamment du développement analogique, sans le connaître. Ça, c'est la loi commune. Quand il y a un degré supérieur, on ne peut pas atteindre ce degré supérieur sans passer par le degré inférieur. Tandis qu'on peut demeurer dans le degré inférieur sans connaître le degré supérieur. Donc la contemplation analogique de Dieu, la seule possible humainement, cette contemplation analogique de Dieu présuppose le développement de mon intelligence dans ce qu'elle a de tout à fait divin, dans ce qu'elle a de, dans ce qu'elle a d'ultime. La finalité profonde, c'est de contempler l'être premier. C'est de contempler la vérité première. Et cette contemplation, je ne peux la faire qu'avec le secours de Dieu. Parce que elle n'a pas de stabilité en moi. Je ne peux pas vivre tout le temps au niveau de l'analogie. Je vis par moment du niveau analogique, métaphysique. Je ne peux pas vivre tout le temps du côté analogique, du point de vue analogique. Tandis que si je ne fais pas grande attention, je retombe tout de suite dans l'univosité. Et j'atteins soi-disant la finalité de l'intelligence, la vérité. Non, la vérité saisie au niveau qualitatif, la vérité saisie au niveau générique, ne me donne pas la fin de mon intelligence. Mon intelligence a une fin propre à cette réalité de la personne humaine qui est en moi. Mais pour atteindre cette finalité propre de l'intelligence qui est en moi, chaque fois, il me faut recommencer un effort nouveau, à nouveau difficile, parce que je ne peux pas m'installer dans l'analogie. Je ne peux pas m'installer dans une intelligence faite pour Dieu. Donc, je reviens toujours à mon expérience première qui m'aide à comprendre ce qu'est